Lecture Club, une émission de Radio Notre-Dame en codiffusion avec RCF. Christophe Maury.
Le musée d'art moderne de la ville de Paris, avenue du président Wilson, dans le 16e arrondissement de la capitale, présente la plus grande rétrospective consacrée à Nicolas de Staël. Alors Nicolas de Staël, tout le monde le connaît, ou presque. Il est né en 1914, il meurt en se jetant par la fenêtre de son atelier le 16 mars 1955 à Antibes. C'est un peintre français d'origine de Russie, issu d'une branche cadette de la famille Staël von Holstein, s'il vous plaît. Alors, vous avez vu cette émission, Mélina de Courcy, Stéphane Covio, Guillaume Sébastien, bonjour à tous les trois.
Bonjour Christophe.
C'est une exposition incroyable qui est présentée de façon chronologique, de sorte qu'on assiste à l'émergence puis à l'invasion de la couleur. Je parle sous votre contrôle, et on commence de façon très sombre et sobre et on finit dans la lumière de la Sicile, dans Agrigente. J'étais frappé par ces paysages annoncés sur le terrain, quatre bandes et deux carrés de jaune, de rouge que côtoie l'orange, aimé les fleurs grises, vraie création picturale car la nature n'en a jamais produite, et puis heureux de revoir le Parc des Princes, il y a deux tableaux, et l'orchestre, immense format pour New York, des tâches qui respirent la musique. Alors la chronologie montre curieusement une ouverture sur la lumière et le développement de la couleur, je l'ai dit, et alors que le suicide devient de plus en plus proche. Le parcours est à regarder en parallèle, peut-être avec les Van Gogh à Auvers-sur-Oise, actuellement exposés à Orsay. Des dessins rappellent clés dans leur sobriété. Trois d'entre eux montrent un nu de dos en quatre traits. La sensibilité et la sensualité est là. L'exposition la plus large de Nicolas de Staël, qui écrit, je cite, « On ne peint jamais ce qu'on voit ou croit voir. On peint à mille vibrations le coup à recevoir, semblable, différent, point, un geste, un poids. » Tout cela à combustion lente. Ces vibrations se trouvent autant dans les grands formats que dans les tout petits qui sont dans les vitrines, et cela mérite de s'y pencher. Voilà. Mélanie de Courcy, j'ai tout dit, c'est à vous.
Mélina de Courcy est très heureuse de vous parler aujourd'hui, Christophe. Bon. Et Nicolas de Staël, c'est un prince.
Ouais.
C'est un prince. Il est habité par une luminosité intérieure qu'il ne peut pas ne pas transcrire sur la toile. Et ces toiles vibrent de masses colorées, sonores, qui nous émeuvent au plus haut point. Il n'appartient à aucune école, abstrait peut-être, figuratif aussi, peu lui chaud. Ce qui compte, c'est sa vision à lui, la puissance de sa vision, qu'il conduit jusqu'à l'idéal de ce qu'il voit. Et moi, la grande question pour moi, c'est quel est son processus de création ? Parce que pour voir ce qu'il voit, et transmettre ce qu'il traduit sur la toile, il y a quelque chose qui se passe qui est de l'ordre de l'incompréhensible, qui est un très très grand mystère et qui est d'une émotion très intense.
Guillaume Sébastien.
Bien, c'est une exposition qui est magnifique. Je pense que n'importe qui, même des gens qui ne connaissent rien à la peinture, rien à l'art moderne, à l'art contemporain, seront très, très heureux, très intéressés de voir cette exposition parce que elle est remarquablement faite, vous l'avez dit. C'est une exposition qui est chronologique. Donc, on passe de salle en salle, d'année en année, finalement, puisque Nicolas de Staël a profondément évolué dans sa peinture. Chaque année, dit-on, on s'en rend bien compte dans l'exposition, et il passe d'une abstraction très abstraite, j'allais dire, jusqu'à une figuration presque figurative, et surtout, effectivement, la couleur. Moi, j'étais très impressionné par les jeunes années, les premières années de Nicolas de Staël, où il est très noir, très sombre, et sa vie a été très sombre au départ. Vous l'avez dit, il est parti de Russie très très jeune, à l'âge de 4 ans avec ses parents. Il a perdu ses deux parents à l'âge de 8 ans, adopté en Belgique, etc. Donc on peut comprendre que cette peinture de jeunesse soit sombre. Et puis, on passe du noir au gris, puis à la couleur, à des couleurs qui sont absolument incroyables.
Puis on a le violet, le bleu, et alors ensuite, ça chante.
Ça explose.
Et ça explose. Stéphane Covio.
Alors, Stéphane Covio a beaucoup aimé l'exposition. En ce moment, il la travaille.
Oui.
Et il est travaillé par l'exposition.
Vous avez fait une conférence en ligne le 24 au matin.
C'est ça.
Et on va sur le site Venez et Voyez et on assiste à votre conférence en ligne.
Oui, exactement. Et vraiment, je suis en chemin avec Nicolas de Staël et je trouve que l'exposition se prête vraiment à ça puisqu'on a une ville artiste du début jusqu'à la fin avec les évolutions qui ont été évoquées. Moi, je suis très sensible pour l'instant aux années 48, 49, 50. Mm-hmm. Donc, la fin de la période abstraite, ou peut-être encore le plein de la période abstraite. Il y a un tableau qui m'a beaucoup arrêté, qui a été intitulé par la suite Eau de vie, mais il ne faut pas se soucier des titres chez De Staël. Puisque
non, j'appelle tous composition ou paysage.
Voilà, c'est ça, véritablement, il n'y a pas de titre chez lui.
Non.
Et à cause de la... Ce qui m'a frappé dans ce tableau, c'est un mélange de choses. C'est l'énergie, c'est des réseaux de touches vives qui sont longues, qui sont très directionnelles, et en même temps, une touche, vous voyez, par exemple, qui va d'en haut à gauche vers en bas à droite, est faite en fait d'une succession de touches qui sont transversales par rapport à la ligne qui est générée par la forme elle-même. Et du coup, il y a une espèce de multiplicité d'animation interne. Ne serait-ce que dans une forme elle-même, il y a deux directions. Et puis, vous avez toutes ces formes qui sont juxtaposées. C'est plein d'énergie, c'est très contenu, c'est puissant. Et vous avez une délicatesse de ton à l'intérieur de tout ça. Alors bien sûr, on est dans des ocres, on est dans des gris, mais je trouve ça très beau. On est dans des couleurs café, on est dans une toile qui possède un fond noir sur lequel les différentes touches ont été posées. Par endroits, il laisse apparaître le fond noir autour des formes qu'il a colorées. Puis on voit qu'il a changé d'avis. Par moments, il a rajouté autre chose. Et ce que je trouve intéressant, c'est la multiplicité des gestuels, et ça anime, ça donne une variété de formes et d'énergie en interne de la toile. Il y a des coups de pinceau très rudes appuyés avec les stries. Alors à l'époque, il y a pas encore de couteau. Le couteau, ça commence vraiment à partir de 1950 quand il fait des formes larges.
D'accord.
Mais au début, les formes sont étroites, il n'a pas besoin de couteau, le pinceau lui suffit largement.
Oui.
Et la gestuelle, du coup, n'est pas la même avec le couteau. Alors, et puis, vous avez des choses très énergiques et puis après des choses très raffinées. J'ai pensé à ce peintre que j'ai découvert chez Guillaume Sébastien, qui a une gestuelle très très libre.
Dans la galerie Guillaume.
Comment s'appelle-t-il ?
Pierre Vémard.
Et qui, par endroit, fait preuve d'un raffinement extrême en posant la couleur de manière très très précise. Et bien, il y a ça dans cette toile de Staël, par exemple.
Puisqu'on rentre dans les détails, mais Mélina de Courcy, vous avez une toile que vous voulez nous commenter.
Oui, je voudrais m'arrêter sur la délicatesse des couleurs dont parlait Stéphane, parce que très honnêtement, moi je pensais à Velázquez à beaucoup, beaucoup de moments de cette première période. Et d'ailleurs, il est allé deux fois au Prado en disant il appelait l'Espagne le pays béni, le voyage idéal. Et en fait, il y a cette espèce de délicatesse de couleurs, c'est vrai, qui peuvent être parfois très surprenantes, parce que d'un tableau à l'autre, on s'attend à ce qu'il y ait un peu une reproduction, parce que ce sont des formes, des masses qui s'imbriquent. Et en fait, il y a toujours le petit truc, la petite note qui fait que, ben non, là, ça change encore. Là,
là on est dans la palette nouvelle de Kubka. Hein.
Oui, aussi. Composition grise de 1949, avec des triangles plus ou moins larges, des grandes masses à plat de couleurs. Ou alors, surtout, ce qui m'a frappé là, c'est l'empattement. Mm-hmm. Alors moi, j'avoue, j'ai passé beaucoup de temps devant ces tableaux un peu statiques.
Oui.
En regardant, en essayant de discerner le nombre de couleurs qu'il y avait sous la couleur finale.
Oui.
Voilà. Et alors, il y a des couches invraisemblables. Mais c'est vraiment un empattement, mais c'est extraordinaire. D'ailleurs, quand on lit un peu ses écrits et les lettres qu'il écrit notamment à sa femme et à sa fille, il dit « Il me faut du fric, vis vite pour la couleur, il me faut du fric !» Parce qu'en fait, il dépensait tellement en matériel. Voilà. Et ça, c'est très impressionnant de voir qu'il y a cette espèce de recherche de la couleur de quelque chose qui va finalement jaillir, mais qui n'est pas du premier jet, et qui est un lent travail de maturation, de composition, pour quelque chose qui est une vibration colorée, mais c'est extraordinaire. Alors c'est vrai pour composition grise, c'est vrai pour Eau de vie dont parlait Stéphane, et c'est vrai pour une autre composition 1949 qui est d'un plus petit format, et où là on a toujours ce travail sur le gris, cette teinte de vert un peu anis, et tout à coup le rouge qui émerge. Alors que dans le tableau d'à côté, c'est un vert anis presque jaune, et en fait c'est touches-là, elles font chanter, ça vibre. Et donc, on est emporté. Et la couleur joue un rôle dans cet art qui est un art abstrait. On ne sait pas ce qu'il a voulu représenter, mais ça nous est complètement égal.
Ça ne représente rien, ça.
Non, mais
dont vous parlez.
Oui.
Dans les vibrations.
Ces vibrations représentent pour nous quelque chose qui est d'une sonorité complètement intérieur et qui nous...
Oui,
qui
voilà,
nous,
je vous dis, je vous dis pas, la visite de Mélina de Courcy à l'exposition Rodko à propos de vibration, ça va être quelque chose. Voilà, Guillaume, Sébastien.
Oui, là, moi, il y a beaucoup d'articles qui sont écrits à propos de cette exposition et j'étais assez étonné de voir qu'on parlait beaucoup d'un débat entre l'abstraction et la figuration. Nicolas de Staël est-il abstrait, est-il plutôt figuratif?
Il est au-delà de la question.
Alors, Nicolas de Staël était sans doute très théoricien. Il a beaucoup écrit sur la peinture. C'était un très grand travailleur. Mmh. Il a beaucoup parlé. Il avait des marchands. C'était un grand professionnel. Mais j'ai vraiment visité cette exposition avec d'abord du plaisir, oui, plutôt que de chercher
une promenade. Absolument.
Et encore une fois, vraiment, l'exposition est remarquable. On y prend un infini plaisir à voir cette évolution de l'œuvre de Nicolas de Staël. Je trouve qu'on, même en passant d'une salle à une autre, plusieurs fois, je me dis, mais c'est incroyable. Il y a vraiment un plaisir pour l'œil qui se dégage. Donc, et surtout, cette œuvre est intimement liée à la vie de Nicolas de Staël. C'est une très bonne idée. Au milieu de l'exposition, il y a un film qui est présenté. On voit Nicolas de Staël. Il est question de ses femmes qui ont été très importantes dans sa vie, de ses voyages, parce que c'était un grand voyageur. Donc, on sent vraiment que c'est une œuvre qui est intimement liée à sa vie, plus qu'à une théorie qui le rattacherait à l'abstraction, à la figuration, ou à un entre-deux.
Vous avez tout à fait raison d'insister là-dessus, parce qu'il est Nicolas de Staël, point. Et c'est ça qui est absolument bouleversant. Et comme vous le disiez, Mélina, c'est un prince. Stéphane
Quand
Covio.
La première fois qu'un de ses tableaux a été acheté par le musée d'art moderne, le patron du musée d'art moderne était Bernard Dorival à l'époque, Staël a dit ne m'accrochez pas avec le gang de l'abstraction avant. Voilà, il voulait être en marge d'une idéologie de l'abstraction. Vous voyez. Alors moi, toujours pour rester dans cette année 1950, qui pour moi est vraiment une année forte, il y a des tableaux qui sont exposés à côté des œuvres préparatoires, et notamment d'aquarelles. Mm-hmm. Et ça, je trouve ça une excellente idée. Les aquarelles sont sidérantes de beauté, toutes simples, parfois uniquement des gris, avec quelques traits, et en fait, ce sont des œuvres à part entière. Elles tiennent la route à 100%, pas du tout comme exercice préparatoire, mais véritablement. Et ce qui m'a frappé, c'est la différence radicale entre l'effet de l'aquarelle provoqué sur l'œil du spectateur et l'effet du tableau final, puisque en fait l'aquarelle, ça joue sur la transparence. On a des délicatesses de ton qui change au fur et à mesure que l'eau pénètre dans le papier. On a de la lumière, on a de la légèreté, et quand on passe, et on a beaucoup de vide. Et quand on passe à l'œuvre qui a été réalisée à partir de l'aquarelle en question, comme premier jet, on a au contraire quelque chose qui est rempli. On a une matière couvrante. On ne voit plus les lignes. On ne voit que des masses qui jouent les unes à côté des autres. Donc ce sont deux effets radicalement différents. Et les deux sont, et l'un et l'autre, de très haute volée, de très haute tenue.
Mélina, vous aviez une autre toile à nous proposer.
Oui, ce qui m'a intéressé aussi, c'est de voir comment il s'est très vite confronté au grand format, par exemple avec...
Très grand format, mais ça, c'est après son voyage, son voyage aux États-Unis, donc, où là, il voit tout en grand.
Voà, mais dans un premier temps, vers 1950, justement, avant de partir aux États-Unis pour sa première exposition de 1953, il peint déjà des grands formats. Par exemple, grande composition bleue, c'est quand même 2 mètres sur 1,50 m.
Superbe tableau.
C'est un tableau avec une grande forme géométrique plutôt dans les noirs, surmonté de 2 rectangles plutôt dans les blancs, avec à droite des grands aplats plutôt dans les aubergines et un peu de bleu en haut. Et je me suis dit, mais c'est extraordinaire, cette grande composition bleue qui a moins de 20% de bleu, je la vois bleue. Mmh. Elle n'est pas bleue.
Non.
Voilà. Ça, c'est inouï. Et donc, ce travail sur la couleur-là, mais quel plaisir de circuler au milieu de ces œuvres. On s'arrête devant chacune. Mmh. Aucune n'est inférieure à l'autre. Que ce soit le format petit ou grand, la composition, la gamme colorée, les notes de couleur qui font chanter une teinte peut-être plus terne ou plus sourde. Mais il y a un talent, mais c'est puissant, mais c'est vraiment extraordinaire.
Ce que dit Mélina sur les couleurs, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de recouvrements, et puis il y a parfois des recouvrements très fins, oui, qui laissent vraiment apparaître des transparences.
Oui,
et puis il y a des bordures,
hein.
Et il y a des bordures aussi. Enfin, oui. C'est très riche chromatiquement parlant.
Alors, grand format, effectivement, grand format que lui réclame son marchand américain, à un moment où d'ailleurs les affaires marchent bien pour Nicolas de Staël, il devient riche, mais aussi, ça c'est une grande découverte de l'exposition, il y a eu une exposition sur Nicolas de Staël il y a 20 ans au Centre Pompidou, que j'avais vu, qui était très très importante, et dans cette exposition, une grande découverte, ce sont les petits formats. Il y a un mur dans une salle, donc, qui montre les tableaux de l'année 52, où il y a 15 petits tableaux qui sont des paysages. Donc Nicolas de Staël, cette année-là, peint en plein air, à la manière des impressionnistes, dans l'Île-de-France, en Normandie, dans le Midi. Et ces petits tableaux sont petits parce qu'il peint dehors, en plein air, donc il ne peut pas peindre sur des grandes toiles en condition avec les aléas météo. Ce sont vraiment des merveilles. J'étais très, très touché par ce mur d'œuvres assez petites.
Et ce qui est amusant, c'est qu'il est peint en les tenant dans la main. Ai-je lu ? Parce qu'il y a pas mal de témoignages dans le catalogue de l'exposition, et qu'on voit aussi, il me semble, dans le film dont parlait Mélina, qui passe actuellement sur Arte, d'ailleurs, qui est disponible en VOD, il n'utilisait pas de chevalet. À partir du moment où il a eu son atelier rue Goguet, pas très loin du parc Montsouris, qui était un très grand espace, il peignit en posant les toiles par terre, tout simplement, ou en les accrochant au mur, pas de chevalet, ou alors, quand c'était des tout petits formats, des cartons, il les tient dans la main, en les peignant comme ça. C'est des postures de peintre très originales.
Oui, c'est vrai.
Alors, on n'a pas beaucoup de footballeurs, on n'a que deux tableaux du Parc des Princes. Dans l'exposition à Beaubourg, il y avait beaucoup de tableaux du Parc des Princes et de footballeurs, ça m'avait marqué. Là, il n'y en a que deux, mais c'est toujours très réussi. Il va avoir un coup de foudre en allant assister à un match de foot au Parc des Princes, et de ce coup de foudre enthousiaste, parce qu'il n'était pas du tout fouteux au départ, il va faire toute cette série de tableaux qui est assez prodigieuse, il faut le dire. Non ?
Elle est prodigieuse, elle donne lieu à une toile d'une taille tout à fait impressionnante, 2 mètres sur 3 mètres 50, et les tableaux qui préparent, qui sont plus petits, cette très très grande œuvre, sont extraordinaires, parce qu'ils nous font justement entrer un petit peu dans son processus créatif, c'est-à-dire qu'il a été fasciné, c'était un match de nuit, il a été fasciné par les couleurs de ces personnages, de ces footballeurs aux vêtements colorés sur le fond sombre de la nuit et sur la pelouse verte. Et il retranscrit très bien ça avec ces touches colorées qui sont des cubes, des rectangles, mais qui montrent ce mouvement, et notamment dans les petits tableaux. Et ce petit tableau-là que vous nous montrez, qu'on voit sur le catalogue à gauche, où on voit plus détailler la posture, le mouvement de deux footballeurs, trois footballeurs qui sont qui se disputent le ballon, en fait. Voilà. Et là, on voit ce mouvement qui est ensuite repris dans cette très très grande toile sur un fond très sombre avec des aplats de couleurs. Moi, j'ai toujours l'impression sur ce tableau qu'il les a vus comme de haut, comme s'il était un aigle. Vous voyez, comme s'il avait une vision complètement de haut, ou alors est-ce qu'il était tout en haut des gradins et qu'il voyait le... Et du coup, on a cette vision très vaste, très complète, comme une espèce de synthèse de ce match, où les blancs, les bleus, le rouge, le vert, le noir de la nuit surgissent comme ça de cette très grande toile. C'est très impressionnant.
La musique est un sujet très important aussi pour Nicolas de Staël. Il y a deux tableaux qui s'appellent l'orchestre qui sont présentés, dont un qui est absolument énorme, qu'il avait fait pour New York d'ailleurs, et on entend la musique.
Oui, ce sont des tableaux de très grande dimension, donc de son époque américaine. Et dans cette même salle où il y a ce tableau qui s'appelle l'orchestre, il y a un autre tableau qui représente des bouteilles.
Oui.
Et les bouteilles sont peintes à la... C'est vraiment fascinant, à la même échelle que l'orchestre ou que les footballeurs dont vous parliez à l'instant. C'est pour montrer quand même comme quoi Nicolas de Staël osait et maîtrisait techniquement ses sujets et le format de ses œuvres.
Quand on s'intéresse à la biographie de Nicolas de Staël, il y a énormément de concerts. Il va très régulièrement au concert. C'est un amateur de musique, c'est un mélomane, clairement. Et puis, il y a autre chose qui intéresse beaucoup Nicolas de Staël, c'est les mots. Et ça, c'est vraiment très présent dans l'exposition. Il est ami avec René Char. Il a une relation très proche avec un...
Tout le monde est ami avec René Char. Plutôt René Char est l'ami de tout le monde.
Avec un jeune poète qui s'appelle Pierre Lecuir, avec lequel ils vont travailler ensemble. Il y a une parenté, paraît-il, de création entre Lecuir et lui, en tant que peintre. Et il va y avoir des productions de livres illustrés, de livres de poèmes illustrés, d'ailleurs, avec René Char, avec Pierre Lecuir. Et dans les témoignages qu'on a de la fille, la fille du premier lit de Nicolas de Staël, qui est Anne, qui est née très tôt, qui est, je crois, née en 1942. Elle a connu son père jusqu'à l'âge de 11 ans. Et elle se souvient que son père lui lisait à voix haute des pages de Corneille, des pages de Racine, et qu'il l'encourageait beaucoup à travailler toutes les matières littéraires. C'était un grand amoureux de la langue française. Et on voit très bien, quand on lit les textes de Staël, ses lettres, il a une plume. Et il a un langage absolument pas ordinaire, avec beaucoup d'images. Il y a une dimension poétique dans ses textes. Et chez lui, il y a quelque chose de comment dire, la recherche qu'il met dans le choix des mots est en parenté avec la recherche qu'il met dans le choix des couleurs et dans la genèse d'un tableau. Il y a quelque chose de... Les deux choses l'intéressent en parallèle, l'écrit et la peinture.
Vous avez interviewé, vous le disiez, la fille de Nicolas de Staël. Dans les grands souvenirs qu'elle avait de son père, en dehors de ses lectures qu'il lui faisait, je crois que c'est la seule à avoir pu rentrer dans l'atelier.
Elle est rentrée dans l'atelier, Pierre Le Cuir.
Parce qu'il y avait Pierre Le Cuir.
Ouais, voilà.
Autrement, elle restait dans l'escalier. Ouais. Elle avait peur de passer le seuil, effectivement. Mais pourtant, il a un portrait d'elle qui est présent dans l'exposition. Portrait d'Anne qui date de 1953, qu'il a fait à Lagne, où il s'était installé près d'Avignon, avant d'acheter le Castellet à Ménerbe. Et elle dit « J'ai posé 3 minutes pour ce tableau ». Et il en sort un espèce de chef-d'œuvre extraordinaire, assez grand quand même, 1m30 sur 90, où le physique de cette jeune fille est construit par aplats de couleurs, par formes géométriques, mais on ne pense pas du tout au cubisme. Ce sont des formes géométriques parce que c'est la couleur qui construit la forme. Et la lumière, dans cette couleur, construit l'émotion dans cette forme. Et ça, c'est tout à fait extraordinaire. Elle-même était impressionnée par le résultat de ce tableau, alors qu'elle se souvenait n'avoir posé que 3 minutes.
Il y a très peu de portraits dans l'exposition. Nicolas de Staël est un paysagiste avant tout. Il a fait des très beaux portraits très, très tôt, très jeune, de Jeannine, donc sa première épouse. Et puis, à la fin de sa vie, j'étais là aussi très, très touché par des nus, à peu près dans la fin de l'exposition, des nus absolument magnifiques, que ce soit des peintures ou même des dessins de très grande dimension.
Incroyable.
Qui sont très simplement esquissés, avec un trait seulement, et c'est absolument magnifique.
C'est magnifique. Alors, il y a un tableau qui s'appelle « Les Indes galantes », qui date de 1963, où on voit une femme qui est vraisemblablement nue, et on a un nombre de couleurs dans le vert, dans le rose, dans le bleu, dans le noir, dans le violet, dans le ici, dans une sorte de bordeaux. C'est absolument prodigieux. Je suis resté longtemps devant cette toile, parce qu'elle a un effet, un mouvement tout à fait sensationnel. Vous l'avez, je crois, vu aussi, et vous l'avez en tête, les Indes galantes.
Alors après, il partit en Italie. Ça, c'était quand même la grande aventure, puisqu'il a appris à conduire en 3 jours, il a acheté une camionnette, il a mis tout le monde dedans, sa femme et sa maîtresse, d'ailleurs. Mm-hmm. Voilà. Et ils sont partis pour la Sicile. Là, il y a des tableaux absolument extraordinaires qui étaient présents à l'exposition... à l'exposition d'Aix-en-Provence à l'hôtel de Caumont, il y a quelques années. Et le temple sicilien, ou les routes qui montent sur les crêtes d'Agrigente, où le ciel est rouge, la terre est rose, où le ciel est noir et la terre est orange. Enfin, on est transpercé par la chaleur, on est dardé des rayons du soleil à travers ces tableaux où la couleur explose littéralement.
Gestes, le temple de ses gestes, et qui va reprendre juste au crayon.
Tout à l'heure, Mélina a évoqué le processus créatif de Nicolas de Staël. Pendant le séjour en Sicile, il ne fait que dessiner, il dessine au feutre. Il remplit des carnets, et c'est quand il est à Ménerbe, après qu'il a un beau castellet qu'il a acheté dans la région dans le sud de la France, c'est là qu'il va commencer à peindre. Et on rejoint la phrase avec laquelle vous avez commencé l'émission, c'est-à-dire qu'il ne peint pas ce qu'il voit ou ce qu'il croit voir, mais à 1000 vibrations, le coup reçu. C'est-à-dire, il faut attendre que le coup soit reçu et qu'après, des choses émergent et exigent d'être exprimées. Et c'est, voilà comment il travaille.
Et c'est ce coup que nous recevons en regardant l'étoile. Vous parliez de vibration, Mélina de Courcy, mais on la ressent très, très physiquement. Oui,
absolument.
Il nous reste 1 minute.
C'est un choc visuel.
C'est un choc visuel. On est d'accord.
On ressent quand on est devant ces œuvres du Sud, hein, puisque c'est au moment où il peint surtout dans le Sud, où il s'installe dans son atelier à Antibes. Mais ces œuvres faites en Sicile ou à Marseille, c'est d'une radicalité qui est absolument incroyable. Ça ne ressemble pas à des paysages. Il simplifie les choses. Et c'est vrai qu'on sent au fur et à mesure des salles que Nicolas de Staël veut simplifier sa peinture jusqu'à arriver à quelques grands aplats de couleurs, avec des couleurs qui sont bien sûr pas celles des paysages qu'il a en face de lui.
Et il faut bien regarder les titres, parce qu'ils sont particulièrement... quand il y a des titres, il y a Gentilly, par exemple. Surtout à la fin, il parle de Gentilly, ou il parle de... on n'a pas Jeufosse ni Bonnière, mais presque. Enfin, et c'est assez épatant, parce qu'en effet, on est dedans. Alors, je vous recommande, à côté de l'exposition, le formidable livre de Stéphane Lambert, Nicolas de Staël, La peinture comme un feu. C'est chez Gallimard. C'est aussi beau et énergique qu'un catalogue d'exposition. Le catalogue d'exposition est très beau aussi, il faut le rappeler. Merci Ménad Courcy, Stéphane Covio, Guillaume Sébastien, pour cette visite de Nicolas de Staël au Musée d'Art Moderne de la ville de Paris. Merci à Cédric Cobard, François Dieudonné, Philippe Malpeuch, Louis-Marie Picard et Camille Meyer pour la réussite technique de cette émission. Allez, cette fois-ci c'est fini.